Genève. Côté. Nature.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans l'émission Genève Côté Nature. Je m'appelle Émilie et je suis avec ma sœur Virginia. Nous sommes toutes les deux biologistes et fondatrices de l'association NARIES et nous vous présentons chaque semaine un sujet en lien avec l'environnement et la préservation de notre planète.
Aujourd'hui, c'est un côté science que nous vous proposons et nous allons parler de l'eau. Nous allons traiter plusieurs sujets, le cycle de l'eau, l'importance de l'eau pour la vie, la pollution et la préservation de cet élément au quotidien.
Un peu de théorie pour commencer. Alors, d'un point de vue chimique, l'eau est une molécule composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. On parle de formule brute en chimie, donc sa formule brute est H2O. Cette molécule est stable et est à l'état liquide à température ambiante, du moins dans nos contrées. Quand la température diminue, elle se transforme en glace, et quand la température monte, elle devient de la vapeur d'eau. C'est une ressource extrêmement importante, surtout sous sa forme liquide, parce qu'elle est nécessaire pour que la vie existe.
Sur Terre, c'est l'eau salée qui est la plus abondante. 71% de la surface de notre planète sont recouverts d'eau, et 97% de cette eau est salée. Quand on parle du cycle de l'eau, on décrit un phénomène naturel qui consiste à comprendre comment l'eau se déplace sur la planète. Alors ce parcours est intimement lié au soleil, ou plus exactement à l'énergie solaire, car c'est justement la température qui va faire que l'eau change d'état physique. Alors pour vous expliquer tout ça, on va imaginer que nous sommes une goutte d'eau, et on va voir ce qui nous arrive.
Imaginons que notre point de départ est l'océan. Au sein de cette grande masse d'eau, il y a déjà une dynamique importante parce que la température modifie la densité du liquide. L'eau chaude remonte vers la surface et l'eau froide descend parce qu'elle est plus dense. Ces mouvements sont évidemment liés à de nombreux autres organismes parce que l'eau transporte des nutriments ou carrément des petits êtres vivants. Dans le phénomène qu'on appelle upwelling, on considère justement ces mouvements. Alors le principe, c'est que de forts vents, souvent saisonniers, viennent du continent et poussent l'eau de surface vers le large. Ça crée une remontée des eaux profondes qui prennent leur place. Et en remontant, les eaux profondes font diminuer la température de l'eau de surface, évidemment, parce qu'elles sont plus froides. Et comme elles entraînent avec elles du plancton, ça crée des zones de forte production qui attirent de nombreux animaux, comme les baleines, et qui sont évidemment aussi importantes pour les humains, parce que toute la chaîne alimentaire est boostée. Le phytoplancton attire des petits poissons, et eux, des plus gros poissons, et ainsi de suite. Les pêcheurs savent repérer évidemment ces zones de upwelling et en profitent pour remplir leurs filets. Mais revenons à notre petite goutte d'eau, nous parlerons des liens avec les organismes vivants un peu plus tard.
Alors, la goutte d'eau a donc déjà bougé au sein de la masse océanique en passant de la côte au large ou des profondeurs à la surface. Une fois en haut, l'énergie solaire, entre autres, va provoquer une évaporation. La goutte d'eau qui était liquide jusque-là va devenir gazeuse et va s'envoler dans l'atmosphère. Là, elle va rester en suspens, tranquille, et selon les conditions, par exemple si elle est repoussée par des vents au-dessus du continent et vers une montagne, elle va subir une condensation. Toutes les petites gouttes de vapeur d'eau vont se coller et se densifier, et quand de la vapeur d'eau se condense, eh bien qu'est-ce que ça donne ?
Alors, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas la réponse, imaginez simplement que vous avez un verre d'eau glacée devant vous et qu'il fait très chaud. Qu'est-ce que vous pouvez constater à l'extérieur du verre ?
Eh bien que des gouttes se forment, et oui. Donc l'eau redevient liquide, la condensation que subit notre vapeur d'eau correspond donc à la formation d'un nuage. Et si la densité est suffisante, des précipitations se produisent.
Selon la température aussi, on aura soit des précipitations liquides, donc de la pluie, soit des précipitations solides, donc de la grêle, ou un entre-deux, et ce sera de la neige.
Si on imagine qu'on est sur un très haut sommet et qu'il fait très froid, notre petite goutte d'eau devient donc un flocon, et ce flocon revient sur la Terre.
Ensuite, c'est à nouveau principalement une question de température. Quand le rayonnement solaire est suffisant, la neige va fondre et le flocon va redevenir une goutte d'eau. À ce niveau, elle peut aller à plusieurs endroits. Soit elle va à l'intérieur de la Terre par des infiltrations, et elle peut notamment recharger les nappes phréatiques ou les lacs souterrains, qui vont ensuite s'écouler pour refournir des nappes à plus basse altitude. Elle peut aussi rester en surface et s'écouler par ruissellement pour finir par exemple dans un lac d'altitude.
Dans le lac, le rayonnement solaire peut à nouveau provoquer une évaporation et donc la petite goutte d'eau redevient gazeuse, rejoint les nuages et reprend le cycle à ce niveau. Mais à partir d'un lac, on peut aussi avoir des ruisseaux, puis des rivières, puis des fleuves qui font redescendre en altitude notre goutte d'eau jusqu'à ce qu'elle retombe, eh bien, dans l'océan duquel elle est partie. Et le cycle peut alors recommencer.
Il y a aussi un autre phénomène dont on n'a pas parlé, c'est l'évapotranspiration, et ça, c'est lié aux plantes.
Alors c'est sûr que jusque-là, on a décrit le parcours d'une goutte d'eau sans qu'elle croise un seul être vivant. Mais quand elle est dans le sol, elle peut être captée par une plante, qui va l'utiliser pour son maintien et pour sa croissance, notamment grâce aux nutriments qu'elle transporte. Une fois dans la plante, le cycle ne se termine pas. La plante va transpirer, la goutte va redevenir gazeuse encore une fois, puis va s'envoler, rejoindre les nuages, et on rejoint encore le cycle.
Et c'est la même chose pour les animaux. Quand on boit de l'eau, ça ne signifie pas que sa course est terminée. Elle est ensuite rejetée soit sous forme liquide dans les urines, soit sous forme gazeuse par la transpiration, et elle retourne donc encore ici dans le cycle.
C'est pour ça qu'on parle du cycle de l'eau, parce que comme l'a très bien dit Antoine Lavoisier, le père de la chimie moderne en 1789, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est là qu'on voit l'importance de cette ressource qu'est l'eau, parce que dès que sa présence est confirmée, la vie peut se développer. Ça explique pourquoi les chercheurs sont obnubilés par la recherche de vie sur Mars. Les paysages de la planète ont visiblement été sculptés par l'eau. On peut voir des lits de rivière, d'anciennes mers et d'autres preuves qui permettent de croire que l'eau était abondante à une époque sur Mars. La vie sur cette planète n'est donc pas forcément une idée si saugrenue que ça, mais ça, c'est un autre sujet.
Sur notre planète, donc sur la Terre, l'eau est présente partout, quelle que soit la forme qu'elle prend. Elle remplit les cellules des organismes, les animaux aquatiques ont des branchies pour prélever l'oxygène de l'eau dans laquelle ils vivent, on trouve de l'eau sur les plus hauts sommets et jusqu'aux confins des déserts. Elle est parfois abondante et parfois rare, mais dès qu'elle se présente, la vie prend place. Avez-vous déjà vu ce qui se passe après un incendie ? Le sol est calciné, plus rien ne tient debout, mais dès la première pluie, on peut voir la vie reprendre son cours avec des petites touffes de végétaux par-ci par-là.
Dans le désert, il se passe la même chose. L'environnement est très aride, il n'y a que du sable à perte de vue. Mais quand il y a quelques gouttes qui tombent, parfois une à deux fois par an, on se retrouve entouré d'un parterre de fleurs. C'est le cas au Chili dans le Flower Desert et en Afrique du Sud dans le Namaqualand. Une rapide recherche sur Internet vous montrera des photos absolument magnifiques de ces zones désertiques recouvertes de fleurs de toutes les couleurs.
C'est parce que cette ressource est si importante pour toutes les formes de vie qu'il faut absolument la protéger. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu faire une émission côté science sur elle aujourd'hui. L'eau est à la base de tout ce qui est vivant, et sans elle, les problèmes commencent. Sans eau, l'hygiène est difficile à maintenir, ce qui peut entraîner des difficultés au niveau de la santé à cause d'un niveau élevé de risque d'infection. Dans certaines régions, les enfants ou les femmes, souvent, ne peuvent ni aller à l'école ni au travail parce qu'ils doivent aller chercher de l'eau pour toute la communauté. Cette eau est souvent loin des habitations et avec, malheureusement, une gestion et une répartition inadéquates qui peuvent entraîner des conflits entre les demandeurs. L'économie est donc aussi touchée par un manque d'eau.
Et on ne parle même pas des problèmes environnementaux liés au manque d'eau. Sans eau, rien ne pousse, ni dans la nature, ni dans les cultures. Et donc la nourriture peut se raréfier, sans possibilité d'arroser les plantes, de donner à boire aux animaux, ou de leur donner de la nourriture, qui a elle aussi besoin d'eau. Tout est lié. Mais l'absence d'eau n'est pas le seul problème qu'on peut rencontrer. La pollution fait aussi des ravages.
L'eau, qui se répartit sur les territoires sous forme de ruisseaux, de lacs, de nappes phréatiques et j'en passe, est à la portée de toutes les contaminations. Depuis toujours, malheureusement, certaines industries trouvent plus facile de rejeter leurs déchets chimiques ou autres dans la rivière d'à côté plutôt que de payer des taxes sur les poubelles et l'élimination des déchets chimiques.
Quand nous travaillions en Afrique du Sud, pendant nos études, nous étions dans la réserve naturelle de l'Oskop Dam, qui comprend un très grand lac artificiel. Ce lac est alimenté par l'Oliphant River, un fleuve qui traverse tout le pays. Et le long de son cours, l'Oliphant River passe à côté de nombreuses usines, dont des mines à charbon, qui déversent depuis des années leurs déchets dans la rivière. Alors il y a des stations d'épuration à droite à gauche, mais elles ne sont pas assez performantes pour nettoyer complètement l'eau. Donc les polluants déversés dans la rivière contaminent aussi le lac de l'Oskop Dam en passant à côté. Avec les fortes chaleurs de l'été, l'eau s'évapore et la concentration en polluants augmente parce qu'elle se concentre.
Quand on était étudiante là-bas, on a vécu une saison extrêmement sèche et le niveau du lac a dramatiquement baissé. La pollution est alors devenue tellement concentrée qu'elle a commencé à menacer la vie sauvage de la réserve. Il y avait les poissons qui mouraient à la pelle, on les voyait tous les jours flotter à la surface. Mais le problème ne s'arrêtait pas là, parce que ces poissons étaient en fait les sources alimentaires de nombreux autres animaux qui venaient manger ces poissons morts disponibles. Les phacochères, les aigles pêcheurs et toutes les autres espèces étaient directement touchées par la contamination des poissons qui se transmettaient alors dans la chaîne alimentaire. Tous les animaux qui venaient boire l'eau étaient aussi touchés par la pollution évidemment, donc impalas, rhinocéros et singes, tous utilisaient le lac comme ressource inépuisable d'eau. Et pour les espèces aquatiques, comme les tortues d'eau douce, les varans d'eau, les hippopotames et les crocodiles, eh bien, ils étaient littéralement dans de l'eau impropre à longueur de journée.
À cause de cette pollution, nous avons même perdu un des plus gros crocodiles qu'on avait jamais vu et qui était la fierté des rangers de la réserve. Il faisait presque 4 mètres de long, mais il a quand même succombé à cause du haut taux de toxicité de l'eau. Il est même bientôt devenu impossible de naviguer dans certaines zones du lac, car la pollution a entraîné une prolifération des algues qui l'ont envahi. Les jacinthes d'eau en ont profité pour pousser partout et bloquer certains accès. Alors ce sont des plantes qui peuvent décontaminer l'eau, mais la pollution était bien trop importante.
On pouvait rien faire contre ça malheureusement. Alors il y a un des rangers qui a essayé de faire une étude sur la qualité de l'eau, mais je crois pas que ça ait mené quelque part malheureusement. Il aurait fallu avoir des fonds qu'il n'avait pas à ce moment-là. Le lac de Los Cobdam était à ce moment-là en passe de devenir le plus grand lac acide du monde.
Et nous, devant ce spectacle absolument désolant, tout ce qu'on a pu faire, c'est ramasser les poissons morts chaque jour en rentrant du terrain pour les amener aux rangers pour les brûler et éviter qu'ils ne contaminent la chaîne alimentaire.
C'est le moment de faire une courte pause musicale. Alors aujourd'hui, on va écouter la chanson Le Pire de Maître Gims qui traite des problèmes de la planète et du fait que, oui, il y a le problème de la méchanceté des hommes mais aussi de tous ceux qui ne disent rien pour contrer ce qui se passe.
Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre les poissons ont trop pleuré. Et mais dis-moi ce qu'on a fait. Et mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Mal est fait, mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Toujours la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge je descends. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Et mais dis-moi ce qu'on a fait. Et mais dis-moi ce qu'on a fait.
Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive.
Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré, pleuré. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré.
C'était Maître Gims avec sa chanson « Le pire ». Vous êtes dans Genève côté nature et aujourd'hui, nous vous présentons un côté science où l'eau est la vedette. Alors l'eau, cette ressource indispensable à la vie, est malmenée aux quatre coins de la planète par une utilisation inappropriée ou inégale et elle est sujette à une pollution monstrueuse. On a parlé dans la première partie de cette émission des pollutions chimiques qui, des fois, peuvent être dramatiques au sein d'un écosystème ou même au sein d'une population qui compte sur cette eau pour survivre. Et ce n'est pas la seule pollution qui est dangereuse pour l'eau, non, non. De nos jours, il faut aussi prendre en compte la pollution aux microplastiques. Mais nous avons déjà plusieurs fois parlé de ces problématiques dans d'autres émissions. Ça va finir par être redondant. Alors aujourd'hui, parlons plutôt de comment faire pour nettoyer une eau contaminée par des substances chimiques ou même par des métaux lourds. Parce que oui, à côté de la liste interminable des éléments polluants de l'eau ou des habitats détruits à cause de cette pollution, il y a aussi la liste de ce qu'on peut faire pour remédier à ça. Et comme la nature est bien faite, elle a des solutions. On va donc parler de la phytorémédiation, soit le nettoyage ou la dépollution des sols et des eaux grâce aux plantes. Alors dans un écosystème stable, tout est en équilibre, les plantes, les particules dans le sol, les micro-organismes. Des relations subtiles lient tous ces partenaires, comme l'absorption de certains éléments rejetés par d'autres, la transformation de substances par les uns qui sont ensuite collectés par le reste, etc. Alors quand un élément est en trop grande quantité, l'équilibre est dérangé et les organismes animaux, végétaux ou même fongiques, donc les champignons, vont faire en sorte de restaurer l'équilibre en utilisant le trop-plein des éléments pour fabriquer de l'énergie. Si un sol ou une eau est contaminé par des composés organiques, les plantes peuvent souvent les absorber et les utiliser pour leur propre métabolisme. Ça permet de les retirer de l'environnement et de leur trouver un rôle plus utile. Si les composés absorbés sont des métaux ou des sources nucléaires, les plantes peuvent aussi les absorber et les stocker dans leurs tiges et leurs racines. Mais elles ne pourront pas les détruire, elles ne seront que des intermédiaires en les enlevant de l'environnement. Il nous faudra ensuite les prélever et les détruire, mais au moins les toxines ne seront plus dans le sol ou dans l'eau. Alors pour nettoyer les eaux, le peuplier est par exemple une très bonne plante qu'on appelle hyperaccumulatrice. Elle pousse rapidement et absorbe une très grande quantité d'eau. C'est très utile pour les polluants qui se sont dissous. Et vu que les quantités absorbées sont importantes, ça permet de diminuer grandement la quantité d'eau qui poursuivrait sa route et irait contaminer d'autres régions. Alors des centaines de plantes ont été listées pour leur capacité hyperaccumulatrice. Certaines sont spécialisées dans les pesticides, d'autres dans les métaux, comme le saule pour le zinc, le colza pour le nickel ou l'arabette pour le cadmium. L'amarante réfléchie est une plante qui est même connue pour accumuler du césium radioactif. On retrouve souvent des plantes qui décontaminent les eaux dans les stations d'épuration écologique. On parle notamment des roseaux ou de la jacinthe d'eau, comme on l'a mentionné dans la première partie de cette émission. C'est la plante qui a proliféré dans le lac pollué d'Afrique du Sud dont on vous a parlé.
Mais pas besoin d'être dans une station d'épuration pour profiter des plantes hyperaccumulatrices. Vous pouvez aussi les installer dans votre étang ou dans une piscine naturelle. Elles feront en sorte que votre eau reste propre et saine pour aller faire trempette.
Alors c'est bien joli de tout faire pour décontaminer une eau polluée, mais ce serait bien évidemment de faire notre possible pour ne pas la contaminer à la base. Mais est-ce que c'est vraiment en notre pouvoir, nous, simples citoyens de la Terre ? Eh bien oui, en faisant attention à certains gestes dans notre quotidien.
Et oui, la fin de cette émission côté science sur l'eau va partir gentiment sur un côté astuce, mais tout aussi important.
Pour limiter la pollution des eaux, il faut déjà essayer de ne pas utiliser de produits chimiques, évidemment à la base. Et on ne parle pas que des pesticides sur les cultures qui s'infiltrent dans les sols et viennent contaminer les nappes phréatiques. Non, non, non. On peut faire attention, chez nous, à ne pas utiliser de produits chimiques pour faire notre ménage, à favoriser les produits écolos pour la lessive et la vaisselle, voire à n'utiliser que du vinaigre et du bicarbonate, les maîtres dans le nettoyage, toutes catégories confondues.
Et si nous utilisons de la peinture, des solvants ou de l'ammoniac, ne les versons pas dans l'évier, mais récoltons-les dans un bidon et amenons-les directement à la déchetterie. Pareil pour les médicaments, ne pas les jeter dans les toilettes, ils contiennent un grand nombre de produits chimiques nocifs pour l'environnement, ramenons-les plutôt à la pharmacie.
En ce qui concerne les jardins, essayons évidemment de ne pas utiliser d'herbicides ou de pesticides. Renseignez-vous sur la permaculture, amusez-vous à faire des associations de plantes, à disséminer des aromatiques partout pour brouiller les pistes des insectes ravageurs, gardez la cendre de votre cheminée ou de votre barbecue et entourez vos plants pour limiter les attaques des limaces. Vous verrez, il y a mille et une astuces, exemples de produits chimiques pour avoir un potager ou un jardin fleuri. Pas besoin de contaminer les eaux souterraines pour une belle tomate.
Et surtout, le meilleur moyen d'aider la préservation des eaux et de notre environnement est d'en parler autour de nous. Prêchons la bonne parole, comme on dit. La plupart des gens ne font pas faux volontairement, mais ils ne savent simplement pas qu'ils font faux. Alors usons de tact et de bienveillance pour faire passer le message. Voilà, nous arrivons doucement à la fin de cette émission. Nous allons donc réécouter le son de Benoît que vous avez eu sur les réseaux sociaux depuis vendredi. Il s'agissait du son d'une petite rivière enregistrée à l'hydrophone, donc le son provient de l'intérieur de l'eau. Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé.
Dans les prochains rendez-vous Nariès, nous avions des cours de cosmétiques, des sorties clic nature, des animations publiques. Mais au vu de la situation sanitaire et des nouvelles mesures, nous allons devoir reprogrammer certaines de nos activités. N'hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet pour connaître nos prochains rendez-vous et à vous inscrire à notre newsletter mensuel pour avoir de nos nouvelles. Tout se trouve sur notre site internet www.nariès.ch.
Et n'oubliez pas notre Eco-Challenge 2021. N'hésitez pas à poster des photos des défis réussis sur les réseaux sociaux en taguant Nariès et en écrivant le hashtag Eco-Challenge 2021 et le hashtag Nariès-CH. On se réjouit de voir vos réussites.
Vous pouvez télécharger l'Eco-Challenge sur notre site internet. Et en attendant, nous vous souhaitons une très bonne semaine. Gardez vos distances, lavez-vous les mains. Et on se retrouve en pleine forme lundi prochain pour un côté passion.
Au revoir et bonne semaine.
Genève. Côté. Nature.